nous sommes apparus sur Terre bien avant les humains. Nous avons survécu à des cataclysmes qui ont porté des milliards de vies. Nous avons tenu bon jusqu'ici. Mais une poignée d'entre vous est en train de façonner un monde qui nous anéantira tous. Nous sommes tour à tour traités d'indésirables, de nuisibles, d'invasifs. Nous sommes piégés, emprisonnés, empoisonnés, massacrés. Malgré cette époque maudite, un petit nombre d'humains essaient de s'organiser et de se battre pour que nous puissions vivre en paix. Décidément, vous êtes imprévisibles. Nous voulons aujourd'hui dénoncer nos agresseurs et rendre hommage à celles et ceux qui nous ont aidés tout au long de notre histoire commune. Je suis le Martin Pêcheur. Nous sommes les oiseaux, nous sommes le peuple ailé, et nous avons bien des choses à raconter. Ceci est notre tribunal. Épisode 5. L'effraie des clochers. Nous sommes en Europe au Moyen-Âge. Pour guérir d'une morsure de serpent venimeux, un remède teinté de superstition et de magie préconise de frotter la blessure avec une amulette faite d'une pâte de hibou petit-duc Scops, ficelée avec des herbes. Il va sans dire que nous vous déconseillons fortement cette méthode si un serpent vient à vous mordre. Mais cette anecdote montre bien le fort impact des rapaces nocturnes, chouettes et hiboux, sur l'imaginaire des humains. En effet, la forme de leur visage, relativement similaire aux humains, deux yeux surplombant un bec et une bouche, leurs mœurs nocturnes, leurs chants lugubres et la quasi-impossibilité de les distinguer en journée en ont fait des créatures fascinantes, tantôt associées à des créatures porte-malheur, voire liées au diable ou à la sorcellerie, comme le montre l'exemple évoqué juste avant, ainsi que leur nom de famille, Strigiforme, signifiant littéralement en latin « forme de sorcière ». Cependant, on en a également fait des symboles de sagesse, créatures clairvoyantes, capables de voir ce que les humains ne peuvent pas voir et vivant à l'écart. Par exemple, on en fit le symbole de la déesse Athéna en Grèce antique, Minerve sous l'Empire romain. Une chouette européenne en a d'ailleurs gardé le nom, la chouette d'Athéna. Le rapace nocturne qui va venir se percher à la barre aujourd'hui a sans doute le cri le plus effrayant de toute sa famille. Surnommée Dame Blanche, son nom scientifique signifiant d'ailleurs Chouette Blanche, ouvrons la séance de Tito Alba, les frais des clochers. Il est pour le moins difficile, à moins de déjà connaître l'une de ses cachettes, d'observer à l'œil nu l'oiseau du jour, ou plutôt l'oiseau de la nuit. Mais si vous avez la chance de le voir clairement d'assez près, vous ne pourrez pas le confondre. Il est l'unique représentant de la famille des Titonidés en Europe. Son dos est de couleur roux-brique, sa poitrine est blanche, ses yeux sont brun-noir comme sa cousine plus commune, la chouette hulotte, mais contrairement à cette dernière, son disque facial est blanc en forme de cœur. À propos de son disque facial, sa forme de parabole, couplée à la capacité des chouettes et des hiboux d'orienter leur tête à 270 degrés sans bouger, permet de mieux capter les sons et de les diriger vers le conduit auditif, qu'ils peuvent plus ou moins ouvrir ou fermer pour mieux entendre. Les oreilles, cachées derrière les plumes latérales du crâne, sont asymétriques. Nos effraies ont en effet l'oreille droite plus basse que l'oreille gauche. Cela leur permet d'avoir une perception sonore différente d'une oreille à l'autre. Par exemple, si un son vient du bas, il sera perçu plus fort dans l'oreille droite que dans l'oreille gauche. La chouette a donc une information tridimensionnelle de là où se situe une proie potentielle, uniquement grâce à son ouïe. Par ailleurs, elle possède 95 000 neurones, soit trois fois plus que les corbeaux. Une sacrée tronche parmi les oiseaux. Enfin, alors qu'un humain peut perdre jusqu'à 30 décibels de sensibilité et de capacité auditive à 65 ans, l'effraie, au contraire, possède la capacité de régénérer les cellules de ses canaux auditifs et arrive à garder son ouïe de très grande qualité toute sa vie. Comme si cela ne suffisait pas, cette ouïe fine vient se joindre à une vue dans le noir 50 à 70 fois plus performante que chez les êtres humains. Les proies auront bien du mal à se cacher pour leur échapper. Et une fois que les proies sont repérées, leur plumage élastique à la structure particulière provoquant peu de friction avec l'air, en fait des prédateurs quasi silencieux, et donc presque parfaits. Pourtant, plusieurs menaces ont fait dégringoler les effectifs de cette espèce, notamment en France entre les années 1970 et les années 1990. La première est la collision avec les véhicules. Une étude française a révélé que chaque année, le long d'un tronçon d'autoroute, on enregistre une mortalité moyenne de 1,23 effraie des clochers par kilomètre d'autoroute. À ce problème critique, une solution assez simple à mettre en place. Il s'agit de planter des arbres ou d'installer des poteaux sur le bord des routes pour servir de perchoirs surélevés, depuis lesquels les oiseaux peuvent s'élancer pour traverser la route en hauteur, au-dessus des véhicules. Pour nicher, les fraies apprécient les endroits avec un minimum d'espace obscur, occasionnellement dans les cavités des arbres ou des falaises, mais surtout les bâtiments anciens avec des anfractuosités. Granges, greniers, vieilles maisons peu fréquentées, pigeonniers, châteaux, et surtout les nefs et clochers des églises, d'où elle tire la deuxième partie de son nom. Malheureusement, ces vieux bâtiments sont soit abandonnés, soit rénovés sans tenir compte de leur rôle d'habitat. Les nouveaux bâtiments n'ont pas les mêmes caractéristiques, et les clochers, tours et autres églises sont grillagés contre les pigeons, ce qui bloque également l'accès aux chouettes. Heureusement, des citoyens se mobilisent ici et là pour aménager des nouveaux bâtiments de manière adaptée ou réhabiliter les vieux, notamment les clochers, quitte à y placer des nichoirs adaptés. Enfin, cet oiseau se nourrit à 95% de micro-mammifères, campagnols, musaraignes et autres, et est un auxiliaire des cultures d'une grande importance. De fait, on le trouve dans les milieux ouverts et bocagers, situés à proximité des constructions humaines. Les territoires de chasse préférentiels comportent une forte proportion de prairies naturelles, de lisières de champs, de haies ou bois, ainsi que des friches, jachères et vergers. Plus rarement, des marais ou des zones de grande culture. Comme nous l'avons évoqué dans les précédents épisodes, les activités humaines ont tendance à faire disparaître les prairies naturelles et les haies. De plus, les poisons utilisés dans les campagnes de limitation des rongeurs affectent forcément les micro-mammifères et par conséquent privent les effraies des clochers de leur nourriture. Une agriculture plus extensive, utilisant moins de produits chimiques de synthèse et favorisant la replantation de haies, voire la réouverture des milieux naturels, pourrait conforter la stabilisation des effectifs de l'effraie des clochers en Europe. La prise en compte de l'espèce au niveau européen comme français, où elle bénéficie de statuts de protection, de même que le fait qu'elle soit relativement commune dans beaucoup de pays, aide à maintenir les populations. La prise en compte de l'espèce par des statuts de protection, tant au niveau européen que français, plus le fait qu'elle soit relativement commune dans beaucoup de pays, aide au maintien des populations. Cependant, il ne faut pas se réjouir trop vite, car les menaces qui pèsent sur elle ne sont pas prêtes de disparaître et elle peut avoir de grosses difficultés localement. En France métropolitaine, par exemple, elle est classée en préoccupation mineure sur la liste rouge des espèces menacées. Mais elle est en danger en Languedoc-Roussillon et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez participer à la préservation de cette espèce. Si vous trouvez une effraie blessée sur le bord de la route, saisissez-la avec des gants ou un chiffon par le corps en faisant attention aux serres, puis mettez-la dans un carton avec un journal au fond. N'oubliez pas de perforer le carton pour l'aération. Si vous avez une ou des effraies en situation de détresse, vous pouvez contacter le centre de soins le plus proche de chez vous ou la fiche médiation LPO, effraies des clochers, disponible sur leur site internet. Attention cependant, car si vous vous y prenez mal, une sorcière pourrait bien vous jeter une malédiction. Les chants d'oiseaux que vous avez entendus pendant l'épisode ont été enregistrés par Joao Thomas et sont hébergés sur xeno-canto.org. Au plus fort de l'orage, il y a toujours un oiseau pour nous rassurer. C'est l'oiseau inconnu. Il chante avant de s'envoler. C'était le Martin Pêcheur. Merci de m'avoir écouté.